Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Depuis le lancement de la première version de ChatGPT en 2022, nous sommes exposés à une avalanche de termes, comme machine learning, deep learning, LLM, sans vraiment comprendre les subtilités qui les distinguent. Si vous vous y perdez, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans cette émission, nous allons prendre le temps de décrypter les grands jalons de cette révolution, car l'intelligence artificielle n'est pas née hier et s'inscrit dans une longue histoire, faite d'avancées majeures, comme celle du machine learning, qui a profondément transformé notre manière de concevoir les algorithmes. Et pour en parler, nous avons un invité qui lui comprend précisément comment ces algorithmes apprennent. Cet invité, c'est vous, Gérard Biot. Bonjour.
Bonjour Marie-Cathelin.
Vous êtes agrégé de mathématiques, spécialiste des statistiques et du machine learning. Vous êtes également professeur à Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à clarifier ces notions, à commencer par celles que l'on entend partout et tous les jours maintenant, qui est la notion de l'intelligence artificielle. On retient souvent la date de 1956 pour marquer la naissance officielle de l'IA, en tout cas du terme. Qu'est-ce qui s'est passé cette année exactement là, en 1956 ?
Alors effectivement, vous avez raison, on a l'habitude de dater les débuts de l'intelligence artificielle dans une conférence à Dartmouth, aux États-Unis, en 1956. Et à ce moment-là, les pères fondateurs se réunissent avec, au fond, une ambition assez affirmée, celle de comprendre, d'imiter, de créer les mécanismes de l'intelligence. On pense à ce moment-là que l'intelligence peut se décomposer, au fond, en règles. C'est-à-dire qu'une action peut se décomposer en une suite d'actions, ce qu'on a appelé à ce moment-là l'IA plutôt symbolique. Les espoirs vont être rapidement tempérés parce que, au fond, pas beaucoup de succès ne sortiront de cette approche. Et donc, le domaine, pendant un certain nombre d'années, va connaître des hauts, des bas, mais rien, au fond, qui s'approche de près ou de loin d'une forme d'intelligence, ou en tout cas des possibilités que nous connaissons aujourd'hui.
Le mot intelligence artificielle est créé à cette occasion.
Absolument, c'est à ce moment-là que le domaine démarre. Et les choses vont s'accélérer.
Beaucoup plus tard,
aux alentours des années 2000, suite à la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, les progrès d'Internet, les progrès de l'informatique, le fait qu'on soit capable d'acquérir des données. Également, la puissance des ordinateurs qui va considérablement être augmenté à partir des années 2000-2010. Et puis, bien sûr, les majeurs du numérique, les grandes entreprises du numérique qui vont s'intéresser au domaine. Et donc là, c'est l'avènement d'une forme différente d'intelligence artificielle, IA, le machine learning, en français l'apprentissage automatique, que vous avez cité tout à l'heure. C'est le paradigme dominant aujourd'hui, l'essentiel des algorithmes que nous utilisons. Vous avez cité ChatGPT, Gemini, Claude, sont des modèles qui fonctionnent à partir du machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage sur les données.
Alors, concrètement, à quoi ressemblait le monde de l'intelligence artificielle avant le machine learning et à quoi il ressemble après son introduction ? Vous avez dit introduction du machine learning autour des années 2000, c'est ça ?
Oui, alors il n'est pas apparu du jour au lendemain. Le machine learning, il est héritier de la statistique, finalement. Donc tout ça est un processus qui a pris du temps. Il y a eu ce qu'on a appelé des hivers de l'IA, des moments d'enthousiasme, des moments de refroidissement. On s'est aperçu au fond que les idées étaient bonnes, mais qu'on n'avait pas suffisamment ni de données, ni de puissance de calcul pour les mettre en œuvre. Donc ce que je veux dire, c'est que les modèles ne sont pas apparus du jour au lendemain. Au fond, l'IA que nous connaissons aujourd'hui, elle est plus le résultat d'un long processus d'essais et d'erreurs et de maturation, mais comme souvent du reste dans la science. Ouais.
Mais alors, comment se caractérise le machine learning ? Qu'est-ce que ça change concrètement ?
Alors, le machine learning, ça consiste à apprendre à partir des données. Au lieu de décrire explicitement ce que sont les objets sur lesquels on veut apprendre, eh bien, on laisse, au fond, la machine apprendre toute seule à partir des données. Par exemple, si vous voulez, dans une image, reconnaître un chat, si vous faites ça de manière symbolique, avec des règles, ben, vous allez essayer de distinguer est-ce que l'objet sur la photo a des oreilles, des moustaches, des pattes. Mais vous voyez que si on fonctionne comme ça, ben, très rapidement,
on
est limité. Qu'est-ce qui distingue un chien d'un chat? Et puis qu'est-ce qui distingue un chat d'un tigre, etc., etc.
Donc ça, c'était avant le machine learning.
Exactement. Ça, c'est plutôt l'IA dite symbolique ou l'IA qui fonctionne à partir de règles.
D'accord.
En machine learning, la démarche est tout à fait différente. Au fond, on va laisser les données nous dire elles-mêmes qu'est-ce qui va distinguer un chien d'un chat. Donc, je m'explique. Si vous voulez donc reconnaître sur des photos si c'est plutôt un chien ou un chat, pour continuer sur cet exemple, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord discrétiser la photo, la numériser, c'est-à-dire chaque image, c'est une suite de valeurs, donc c'est ce qu'on appelle un vecteur en termes mathématiques, et on va connecter ces valeurs à une sortie, chien-chat, par une fonction, et cette fonction-là s'appelle un réseau de neurones, ou un réseau neuronal. Ça s'appelle réseau neuronal parce que elle ressemble un peu aux connexions neuronales que nous avons dans le cerveau, mais l'analogie s'arrête là. Au fond, un réseau neuronal, c'est une fonction qui est faite de multiplication, d'addition, un peu comme quand vous prenez le taxi. Mmh. Quand on prend le taxi, le prix de la course, c'est AX plus B, où X est la distance parcourue, B c'est la prise en charge, et A c'est le coefficient multiplicateur. Eh bien, pour trouver dans une image, si on a un chien ou un chat, c'est pas un taxi qu'on a, c'est des dizaines, des millions, voire aujourd'hui des milliards de petits taxis, qu'on multiplie, qu'on additionne, de temps en temps, auquel on ajoute une petite non-linéarité. Bref, ça permet de passer de l'image au label qui est associé à l'image. Et donc cette fonction, elle est là, elle s'appelle un réseau neuronal. La difficulté, c'est que tous ces petits coefficients, eh ben, ils sont inconnus. Et donc on va simplement laisser les données nous dire qu'est-ce qu'ils sont. Alors pour ça, on a des données donc qui sont labellisées, donc on a des images de chiens et des images de chats, et on ajuste les poids les uns après les autres, de telle sorte à matcher parfaitement l'échantillon dont on dispose. Donc ça s'appelle la phase d'apprentissage. Alors bien sûr, lorsque vous avez un réseau neuronal qui a une dizaine de poids, on peut le faire à la main, mais très rapidement ça devient trop compliqué. Imaginez un tableau avec plein de potentiomètres à régler, ben, on ne peut plus le faire à la main, on le fait avec un algorithme qui s'appelle algorithme d'optimisation. Et c'est là qu'on trouve les poids, c'est-à-dire le réglage optimal de la fonction qui permet de passer des images au label chien, chat ou toute autre figure présente sur l'image. Ouais.
Et si je comprends bien, la matière principale, la ressource du machine learning, ce sont les données. Enfin, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Ce sont de grosses données, enfin de données en quantité assez importante. On ne peut pas faire du machine
Absolument.
Learning.
Absolument.
C'est vraiment la base.
C'est la base. C'est au fond, c'est l'or noir du machine learning. Ce sont les données. Et il en faut d'autant plus que les réseaux neuronaux que l'on utilise aujourd'hui dans l'IA contemporaine, ce sont des réseaux neuronaux qui ont beaucoup de poids dans les modèles les plus actuels. On a plusieurs centaines de milliards de poids à trouver, et donc il faut autant de données. Et donc je disais tout à l'heure qu'on pouvait prédire sur une image si on a un chien, un chat, ou bien un avion, un bateau, ou de manière plus sérieuse une anomalie sur une image médicale. Eh bien, quand on prédit, quand vous utilisez votre IA préférée pour écrire un texte, ben, ce qu'on prédit, c'est le mot qui suit à partir de la chaîne de mots qui précède.
Mm-hmm.
C'est un réseau neuronal qui travaille.
Donc vous parlez de prédiction, donc qui dit prédiction dit algorithme aussi.
Absolument, tout à fait.
Vous êtes un spécialiste des algorithmes. À quel moment vous intervenez? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites les algorithmes à la base du machine learning?
Alors absolument. Alors moi, ma recherche, je m'intéresse aux garanties que l'on peut avoir sur ces différents algorithmes. En fait, l'IA aujourd'hui est dans une phase extrêmement dynamique, en vision, en traitement du langage, en génération de contenu, en biologie, en médecine, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Donc l'enjeu n'est pas seulement de produire des systèmes impressionnants, il est surtout de comprendre comment ils fonctionnent, jusqu'où ils sont fiables, comment ils généralisent, c'est-à-dire comment ils sont capable de produire du contenu qui n'a pas été vu dans les données, comment les rendre plus sobres, plus robustes, plus interprétables et au fond plus utiles.
Vous vous intéressez à toutes ces questions-là?
Absolument, voilà. Ce sont les questions qui m'intéressent. Comprendre quelles sont les propriétés de ces algorithmes pour mieux les maîtriser.
Et je voulais revenir sur ce mot-là, machine learning, qu'on emploie depuis tout à l'heure. La traduction en français, ça serait apprentissage automatique?
C'est ça, apprentissage automatique, oui, tout à fait. L'idée, c'est d'apprendre à partir des données. Mais il ne s'agit pas de recopier ce qu'il y a dans les données. C'est d'apprendre, d'extraire les données, la façon dont les processus sont organisés. On parle d'apprentissage. Apprendre, ça n'est pas apprendre par cœur. Prenez l'exemple d'un étudiant, par exemple, en mathématiques. S'il ne comprend pas l'exercice, il aura beau apprendre par cœur 20 exercices, il ne saura pas faire le 21e qui lui sera posé à l'examen. Comprendre, c'est autre chose. Et c'est bien ça qui est en jeu dans les algorithmes d'apprentissage automatique.
Est-ce qu'on connaît un ordre de grandeur de la quantité de toutes ces données qui sont utilisées par les modèles du machine learning ?
Alors là, c'est très difficile de savoir, puisque les constructeurs sont en général assez silencieux sur les quantités de données qui ont été absorbées par leurs modèles. Mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'entraînement des grands modèles commerciaux, les algos ont vu la totalité d'Internet. Les grands modèles de langage ont vu à peu près 30 000 milliards de mots. Alors, ce sont plutôt des tokens en termes informatiques, mais en très gros, un token, c'est un mot. 30 000 milliards, c'est énorme. À une vitesse de lecture normale, il faudrait un être humain quelque chose comme 400 000 ans pour lire tout ce que les machines ont pu voir lors de ce qu'on appelle l'entraînement, c'est-à-dire l'apprentissage des poids dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, c'est évidemment colossal. Ça dépasse, bien sûr, l'échelle humaine. Ouais.
Et on entend parler d'une autre expression qui est le deep learning. Qu'est-ce que c'est ? C'est le niveau au-dessus du machine learning ? Comment les deux se distinguent ou s'imbriquent ?
Non, ce n'est pas le niveau au-dessus du machine learning. Le deep learning, c'est simplement le nombre de couches que l'on met dans les réseaux neuronaux. Je vous ai parlé tout à l'heure des additions et des multiplications. Et donc, ces additions et ces multiplications, elles se font dans des petites cellules, dans l'algorithme qu'on appelle les neurones. Et le paradigme dominant jusque dans les années 2000, c'était d'avoir une organisation de ces neurones de manière plutôt verticale. Et on s'est aperçu, à partir des années 2000, que si on empilait ces couches de façon plus horizontale, eh bien, les résultats étaient meilleurs. Et donc, ça s'est appelé deep, parce que c'était profond. Ça faisait référence à la profondeur du réseau neuronal. Mais c'est un terme technique qui ne signifie pas qu'un réseau est supérieur à un autre ou que c'est une couche d'apprentissage supérieure. C'est juste un nom que l'on a donné à ces réseaux neuronaux.
Donc, ChatGPT, c'est du deep learning
Alors oui, ça repose sur les techniques de deep learning, mais les agents conversationnels que l'on utilise aujourd'hui sont des agents qui ont cette capacité à traiter du texte, du langage. On regarde chaque mot d'une phrase, non pas de manière isolée, mais en essayant de le croiser au mieux avec tous les autres mots de la phrase pour comprendre dans quel contexte ce mot est utilisé. Par exemple, le mot table, dans une phrase, peut être associé à chaise, à mobilier, à meubles. Dans une autre phrase, un table peut être associé à « je table sur une croissance économique de 2% » avec un sens tout à fait différent. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui permet de voir comment un mot dans une phrase particulière est associé aux autres mots de la phrase et finalement à pondérer un mot en fonction des autres mots de cette phrase. Ça s'appelle un mécanisme d'attention et c'est ce mécanisme-là, couplé à des réseaux neuronaux, qui est à l'origine des grands modèles de langage actuels, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. Ouais.
Alors, depuis son entrée en 2022 sur le marché, ChatGPT a fait, en l'espace de 2-3 ans, des progrès impressionnant. Aujourd'hui, il peut générer des images, des vidéos, analyser le contenu de ces vidéos. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi pourrait ressembler ChatGPT d'ici 3-4 ans à horizon moyen long terme?
Alors, bon, je me garderais bien de faire une quelconque prévision dans le domaine de l'IA, tellement la technologie avance rapidement. Aujourd'hui, les grands modèles traitent beaucoup de langage. Les capacités de ces modèles nous surprennent tous les jours, mais beaucoup de chercheurs pensent que ce qui manque au fond à ces IA, c'est le sens physique, d'une certaine manière. C'est-à-dire un bébé qui naît déjà avec une forme de connaissance du monde. Ce que n'ont a priori pas ces grands modèles de langage. Un bébé n'a pas besoin de voir 1000 photos de chiens ou de chats pour comprendre la différence entre un chien et un chat. Il sait intuitivement qu'on ne passe pas à travers un mur. Vous voyez, il y a une forme déjà d'inné sur la connaissance physique du monde. Et donc, il y a aujourd'hui des recherches qui essaient de coupler des aspects machine learning avec des aspects peut-être un peu plus physiques de l'intelligence. Et donc, c'est en particulier le projet de Yann LeCun, dont vous avez probablement entendu parler avec son entreprise qui s'appelle Amilab.
Vous pourriez le détailler un petit peu plus
Oui, alors je suis pas dans les secrets de l'entreprise de Yann LeCun, mais enfin le projet de Yann LeCun, c'est justement d'essayer de dépasser les LLM, le langage, pour fabriquer des IA qui soient beaucoup plus dans la compréhension physique du monde, qui nous permettent de planifier, d'anticiper. Quand on pousse un verre, on sait tous qu'il va peut-être se casser ou que l'eau va se répandre et éclabousser. Et donc ça, cette connaissance physique-là, on aimerait que les machines soient capables de l'appréhender. Donc c'est ça, tout le projet, ce qu'on appelle les modèles du monde, dont Yann LeCun nous parle très souvent.
Mmh. Alors vous, Gérard Biot, vous êtes à la fois professeur, chercheur. Est-ce que vous avez été amené à conseiller des entreprises, alors je pense à OpenAI, mais en France, Mistral, pour les conseiller dans le développement de leurs outils? Comment ça fonctionne? Est-ce que les chercheurs travaillent avec les ingénieurs qui développent les produits ou pas du tout? Comment ça se passe?
Alors oui, alors d'abord, c'est à l'université que nous formons les ingénieurs qui travaillent ou travailleront dans les grandes entreprises que vous avez citées. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est que nous avons beaucoup de relations. Quand je dis nous, c'est les laboratoires. Bien sûr, nous avons beaucoup de relations avec les entreprises du numérique au travers des doctorats. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent aujourd'hui d'avoir des doctorats en partenariat avec l'entreprise. Je pense en particulier au dispositif CIFRE, mais ce n'est pas le seul. Les étudiants qui sont en doctorat CIFRE ont une partie de leur temps consacrée à de la recherche, disons, fondamentale au laboratoire, mais une partie de leur recherche s'effectue dans l'entreprise sur des problématiques un peu plus appliquées. Donc c'est une manière très naturelle de collaborer sur des sujets qui sont frontières développement-recherche. Et donc c'est un système qui marche très bien dans nos laboratoires et je pense qu'il faut continuer à encourager. C'est une richesse de l'écosystème français de l'enseignement supérieur.
Et en parlant de recherche, justement, sur quoi portent les thèses, les recherches actuelles des étudiants qui sont par exemple en thèse CIFRE? Est-ce qu'il y a des sujets qui se distinguent plus que d'autres? C'est très varié.
C'est très varié. Alors, dans l'intelligence artificielle en particulier, il peut s'agir de développer un modèle de machine learning pour telle ou telle autre tâche précise dans une grande entreprise. Il peut s'agir de pousser les limites d'un modèle particulier dans une grande entreprise qui développe un modèle d'IA pour le tester dans telle ou telle autres conditions. Il peut aussi s'agir de réfléchir à quelles sont les propriétés particulières d'un modèle développé par une entreprise. Enfin, il y a mille et un cas de figure, il n'y a pas de schéma imposé.
Il y a peut-être un sujet qui intéresse les chercheurs, c'est le coût énergétique impliqué par l'utilisation de ces outils. Par exemple, quand je demande à ChatGPT de me proposer une recette de lasagne bolognaise, par exemple, j'ai entendu dire que ça allait tuer potentiellement des arbres. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce mécanisme-là énergétique de la requête qu'on fait à l'impact environnemental réel de ces outils-là?
Oui, alors ça nous renvoie au début de la conversation sur l'entraînement des modèles. Donc, vous vous souvenez, on a parlé de ces poids qu'il faut ajuster dans les réseaux neuronaux. Donc, comme je vous le disais, quand il y a très peu de poids, ça peut presque se faire à la main en tâtonnant. Quand il y en a des milliers, des millions, voire des milliards, des centaines de milliards dans les modèles actuels, il faut des algorithmes d'optimisation qui permettent de trouver, d'ajuster les meilleurs poids. Et ça s'appelle la phase d'entraînement des modèles. Et c'est cette phase-là qui est très consommatrice d'énergie, d'électricité, et donc qui émet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est cette phase-là, aujourd'hui, qui est considérée comme étant la plus néfaste pour l'environnement. Toutefois, il y a aussi une autre phase, qui est celle de l'inférence, c'est-à-dire lorsque nous utilisons ces outils à la maison pour traduire des textes, pour regarder une recette de cuisine, comme vous le disiez, ou tout simplement pour faire de la recherche. Donc ça, le modèle, là, est sollicité pour vous donner une réponse. Donc, il a été entraîné, mais donc il travaille pour vous donner une réponse. Et donc, bien sûr, chacune de vos requêtes, c'est quelques grammes de CO2, mais multiplié par le nombre de requêtes et par le milliard d'utilisateurs tous les jours de ces modèles, au final, ça devient l'empreinte carbone et non négligeable. Donc oui, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a un véritable sujet sur la consommation énergétique des modèles, même si il faut reconnaître qu'il est difficile d'avoir une vision claire, parce que très rapidement, on se heurte à des problèmes de définition. Est-ce qu'on parle de l'entraînement? temps. Est-ce qu'on parle de l'inférence? Est-ce qu'on parle du stockage? Il est incontestable qu'il y a une difficulté avec la consommation énergétique des modèles, mais qu'il y a du travail pour bien cerner où sont les sources importantes de consommation. Et par ailleurs, les données sont parfois très difficiles à obtenir de la part des constructeurs.
Mais est-ce qu'on peut rendre ces algorithmes moins gourmands en énergie? J'imagine que ça, c'est une des questions qui doit intéresser les chercheurs.
Bien sûr, ça sont des questions. Ce sont
peut-être
des
vos recherches à vous.
Oui, elles intéressent toute la chaîne de la recherche, depuis la recherche très des matériaux, trouver des matériaux qui soient capables d'avoir des consommations énergétiques moindres une fois injectées dans les machines. Les processeurs, aujourd'hui, ont fait des progrès dans ce qu'on appelle les GPU, donc qui sont les composants électroniques qui permettent d'entraîner les modèles, l'IA, donc on fait des progrès dans la consommation énergétique. Et par ailleurs, il y a beaucoup de recherches pour simplifier les architectures des modèles, c'est-à-dire simplifier les réseaux neuronaux pour essayer d'avoir des performances similaires, des architectures moins complexes, moins de poids, et donc évidemment moins d'impact énergétique. Donc oui, il y a des progrès qui sont faits via la recherche dans ce domaine. Mais il n'en demeure pas moins que la question environnementale ne doit pas être évacuée quand on parle, d'IA. Ouais.
Est-ce que vous pourriez nous parler des recherches qui vous mobilisent en ce moment sur ce sujet-là ?
Oui, alors peut-être avant de parler de mes recherches, je pense qu'il faut évoquer la recherche en général, parce que l'IA impacte de manière assez considérable la façon dont on fait de la recherche, dont on travaille dans le monde de la recherche. L'IA est utile comme outil dans la rédaction d'articles, dans l'écriture de programmes informatiques, donc bien sûr, de ce point de vue-là, c'est un véritable apport, mais je pense que ça va bien au-delà. L'IA aujourd'hui permet d'explorer des masses de données absolument immense, de repérer des régularités difficiles à visualiser ou à voir autrement, de générer des hypothèses, d'accélérer des simulations, d'aider à l'analyse, à la simulation. Donc on a clairement aujourd'hui, via l'IA, une accélération de la découverte scientifique. Beaucoup d'appareils, voire tous les appareils médicaux, sont équipés d'IA, scanners, échographies, etc. Au passage, les radiologues n'ont pas été remplacés. Vous voyez, les radiologues sont toujours là. On a dit il y a quelques années... dans quelques temps, il n'y aura plus de radiologues. Ben non, les radiologues utilisent aussi ces outils, les ont intégrés dans leur quotidien. Et peut-être plus près de moi aussi, les mathématiques, puisque les mathématiques font partie d'un des champs de la recherche qui est considérablement impacté par l'intelligence artificielle. Les systèmes d'IA ont gagné en 2024 une médaille d'argent aux Olympiades mathématiques, une médaille d'or aux Olympiades mathématiques 2025, et désormais nous aident à prouver des théorèmes ou des conjectures difficiles. Voilà, tout ça, ce sont des domaines où l'IA transforme la recherche. Mais je pense qu'il est très important de dire qu'elle ne remplace pas le chercheur ou les équipes de recherche. Le chercheur garde un rôle central, poser les bonnes questions, vérifier, interpréter, critiquer, mettre en perspective.
Il travaille plus vite, le chercheur ?
Il travaille plus vite, absolument. Et vous avez raison de le souligner. Au fond, c'est toute la méthode scientifique qui est bouleversée ou qui va être bouleversée par l'IA. Elle accélère. La boucle entre observation, formulation d'hypothèses, simulation, test, révision. Et donc, l'IA ne remplace pas la méthode scientifique, mais elle accélère les étapes de la recherche, c'est incontestable.
Vous, dans vos recherches, vous pourriez nous donner un exemple un peu concret de comment vous utilisez l'IA, avec quel outil ? Est-ce que c'est ChatGPT ou est-ce que c'est un outil différent ?
Non, j'utilise les outils que vous devez aussi utiliser. Moi, j'aime bien ChatGPT et Claude. Donc,
alors, comment voilà. Vous l'utilisez ? Vous lui posez des questions ?
Absolument, j'interagis avec les deux modèles, exactement comme j'interagirais avec un collaborateur ou une collaboratrice. Vraiment, pas de différence, sauf que je sais que j'ai affaire à une machine, que je fais un peu attention aux réponses qui me sont données,
Mais comme voilà, un collègue comme qui pourrait collègue, vous donner des réponses qui sont
absolument,
fausses.
Qui sont fausses, que je pourrais critiquer, à qui je peux poser d'autres questions, rebondir. Donc, faire des mathématiques avec une IA, ça veut dire dialoguer avec l'IA, exactement comme on dialoguerait avec un collaborateur. Donc, voilà, on commence à dire, pour prendre un exemple très concret, on commence à dire au modèle, voilà, j'ai envie de m'intéresser à tel problème, est-ce que tu saurais pas, on le décrit, est-ce que tu verrais par hasard de la littérature intéressante sur cette question ? questions. Et voilà, rapidement, la machine vous renvoie quelques références clés. On va un peu regarder les articles. On me dit, j'ai vu celui-là qui m'intéresse, mais je ne suis pas complètement satisfait. Moi, j'aimerais bien faire plutôt ça que ça. Et là, la machine vous dit, bonne idée, pourquoi pas essayer ça. Alors, on lui dit, oui, mais ça, non, ce n'est pas exactement ce que je veux. Enfin, bref, il y a un aller-retour, un dialogue.
Oui, il faut avoir soi-même un esprit quand même.
Absolument, voilà. Et donc là, vous touchez du doigt un point essentiel. Sans connaissance fondamentale du domaine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas les capacités d'interroger la machine, vous n'avez pas les capacités de la rediriger,
de la remettre en question.
Éventuellement, elle peut se tromper, mais comme tout le monde. Et donc, simplement de dire, non, mais là, ce qu'elle me raconte, ça ne va pas du tout, ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller, ou ce qu'elle dit, c'est tout simplement faux. Donc, c'est un super collaborateur qui est capable aussi de faire des ponts entre disciplines de manière beaucoup plus pertinente et rapide qu'un être humain, parce qu'au fond, peu de personnes sont capables d'avoir une connaissance de la physique, de la chimie, des mathématiques, de tous ces domaines confondus. On a un super collaborateur, mais c'est vous, ou c'est le chercheur ou la chercheuse qui doit rester à la manœuvre dans l'orchestration. Au fond, il faut le prendre comme un super outil qui a des capacités que nous n'avons pas, qui travaille à nos côtés et qui nous aide beaucoup. Donc, je pense que la comparaison avec l'intelligence humaine n'est pas bonne. Enfin, ces machines-là ne sont pas intelligentes au sens où vous et moi pouvons l'être. En revanche, elles ont des capacités, objectivement, que ni vous ni moi n'avons, et donc il faut les exploiter au mieux, en contrôle.
Mais d'ailleurs, pour revenir sur ce terme d'intelligence artificielle qui est apparu dans les années 50, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait eu des débats pour envisager d'autres appellations? Une autre appellation que intelligence artificielle, est-ce que vous savez?
Alors ça je l'ignore, j'ai pas une connaissance assez fine de l'histoire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce mot aujourd'hui, intelligence artificielle, malheureusement n'est pas très bien choisi.
Il n'est pas très adapté.
Parce qu'il n'est pas très adapté. D'ailleurs, vous avez tout de suite parlé de l'apprentissage automatique, qui est une forme au fond d'intelligence artificielle qu'on a tendance à confondre. Moi, je crois qu'il faut en bouer très humblement qu'on a aujourd'hui à côté de nous des formes d'intelligence qui ne sont pas des intelligences humaines, mais qui ont des capacités que nous n'avons pas. Mais au fond, les voitures vont plus vite que nous, les sous-marins nagent plus vite que nous. Enfin, nage, vous voyez, je dis nage, mais personne ne dit un sous-marin nage, vous voyez. La technologie permet de faire des choses différentes que celles dont est capable l'être humain, et donc l'intelligence artificielle, celle dont nous parlons, a en particulier certaines des capacités que nous n'avons pas.
Et il y a des terminologies autres que intelligence qui vous sembleraient plus adaptées, qui sont discutées peut-être dans le monde de la recherche?
Non, je n'en connais pas. Non,
qui aurait pu remplacer ce terme-là, intelligence artificielle?
Pour l'instant, c'est le mot consacré et qui crée beaucoup de confusion, hélas. Pour moi, c'est une technologie, avant tout, une technologie puissante, avec laquelle il faut apprendre à travailler. Mais bon, ça, c'est l'évolution de la science et de la technologie.
Alors, technologie avec laquelle il faut apprendre à travailler, qu'il faut peut-être aussi apprendre à enseigner aux élèves. Je voulais parler de l'enseignement de l'intelligence artificielle et de sa place aussi à l'université. À Sorbonne Université, vous avez été nommée à la tête d'un groupe de réflexion pour structurer les activités à l'université dans le domaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous y faites concrètement dans ce groupe de réflexion?
Alors, ce n'est pas un groupe de réflexion, c'est un centre d'intelligence artificielle qui s'appelle le Sorbonne Center for AI, alors qui n'est pas un laboratoire à proprement parler, c'est un institut de l'établissement qui a pour vocation, au fond, à mettre un peu en mouvement les différentes forces de l'intelligence artificielle au sein de Sorbonne Université, à la fois les forces en recherche, mais aussi les forces en formation, en innovation. Nous opérons beaucoup de projets, des projets qui peuvent marier des mathématiciens, des médecins, des physiciens, des chimistes, mais toujours avec cette boussole de la science guidée par l'intelligence artificielle. Et, bien sûr, nous nous intéressons aussi, c'était votre question initiale, aux problèmes de formation, puisque là, les défis...
Il y a des enjeux pédagogiques qui sont importants.
Et nous essayons de trouver en particulier des ressources à proposer aux étudiants, des ressources à la fois des cours, des possibilités d'apprendre nouvelles, mais aussi, incidemment, des profs en chair et en os. Ouais.
Oui, parce qu'on peut avoir l'impression que les universités sont parfois un peu, voire totalement dépassées par ce sujet-là, de comment transmettre une sorte de mode d'emploi d'utilisation de ces intelligences artificielles. Est-ce que c'est quelque chose qui qui existe à Sorbonne Université ou dans d'autres universités françaises, une sorte de charte ou de mode d'emploi sur la bonne utilisation de l'intelligence
artificielle,
les étudiants les professeurs.
Oui, il y a des chartes de bonne utilisation de l'IA, aussi bien pour les enseignants-chercheurs que pour les étudiants. Et du reste, c'est une question qui dépasse très largement le cadre de Sorbonne Université. Au fond, c'est une question qui est posée à tous les établissements d'enseignement supérieur, mais au-delà, aussi dans le secondaire, au lycée, au collège ou dans les écoles. Dans les écoles primaires. La vague est tellement importante qu'il faut être capable, dès le plus jeune âge, d'avoir des réponses à ces questions-là. Et bien sûr, c'est quelque chose de difficile, parce que enseigner l'IA, c'est pas seulement apprendre à utiliser les outils et pas non plus rester dans l'abstraction théorique. Il faut arriver à articuler des bases mathématiques solides, une compréhension algorithmique, la discussion que nous avons eue aujourd'hui, comment ça marche, avec des usages concrets, pour que les élèves, les étudiants puissent développer un esprit critique. Donc, j'insiste, former à l'IA, ce n'est pas seulement former à l'usage d'outils, c'est aussi apprendre à comprendre ce que fait un modèle, ce qu'il garantit, ce qu'il ne garantit pas, quand est-ce qu'il est utile, quand est-ce qu'il faut s'en méfier. Au fond, c'est apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle.
Mmh. Non, mais on comprend bien que apprendre à comprendre comment fonctionnent ces modèles, c'est très important pour les professeurs et pour les élèves, y compris pour les élèves qui ne sont pas engagés dans des études scientifiques. Ça concerne également les élèves qui font des études, j'en sais rien, d'histoire, de littérature. C'est malgré tout important qu'ils apprennent à comprendre comment ces modèles fonctionnent.
C'est fondamental. Il y a plusieurs niveaux, au fond. D'abord, il faut que nous continuions à l'université à former des experts de l'IA. Ce sont dans nos universités que les prochaines générations sont formées. Mais au-delà, bien sûr, il faut former tous les étudiants à un usage éclairé de l'IA, puisque presque tous, sans exception, utiliseront ces outils dans leur futur métier, même si, comme vous le soulignez, ils n'en seront pas spécialistes. Ouais. Donc, un chimiste utilisera de l'IA, un médecin utilisera de l'IA, un avocat utilisera de l'IA, bref, tout le monde utilisera de l'IA. J'insiste, personne ne sera remplacé par l'IA, mais en revanche, tout le monde travaillera avec l'IA. Et donc, c'est ça, être capable de former des étudiants qui sont solides dans leur discipline, dans les mathématiques, dans le droit, dans la médecine, qui connaissent parfaitement les fondamentaux, mais qui sont aussi capables d'interroger les IA pour compléter leurs connaissances. Et c'est ça, au fond, tout le défi de l'enseignement supérieur. C'est être fort sur le disciplinaire, mais être aussi en mesure d'apprendre à nos élèves à travailler avec ces nouveaux outils. L'erreur, de mon point de vue fatale, serait de dire, bon, finalement, maintenant, à quoi bon apprendre la chimie, à quoi bon apprendre la littérature, puisque, dans le fond, l'IA connaît bien mieux que nous toutes ces disciplines-là. Non, si on veut rester en contrôle sur l'IA, si on veut innover, eh bien, il faut être fort sur ses fondamentaux. Mais il y a aussi, je crois, une importance de développer une culture de l'IA dans le grand public. Ça me semble essentiel. Et au fond, c'est un peu l'objet du podcast.
Ce qu'on essaie de faire, mais c'est vrai pour les personnes qui n'ont plus la chance d'être étudiants, comment elles peuvent se former à l'IA de manière générale.
Oui, c'est essentiel parce qu'il faut éviter à la fois les peurs excessives, mais aussi des enthousiasmes naïfs, et surtout permettre un débat raisonnable, informé, sur l'intelligence artificielle. Oui. Et donc, pour ça, il faut que les universitaires sortent de leur laboratoire, organisent des conférences grand public,
de vulgarisation, comme on fait en ce moment.
Comme vous le faites dans votre podcast, même si ce n'est pas toujours très facile, parce que c'est un exercice qui nous fait sortir, nous autres enseignants-chercheurs, de notre zone de confort, mais je pense que c'est important, parce que si on ne parle pas suffisamment de l'intelligence artificielle, c'est là qu'on laisse développer toutes sortes de croyances.
Ouais. Est-ce que vous avez d'ailleurs en tête des ressources, que ce soit des ressources documentaires, des ouvrages, des vidéos peut-être à regarder, grand public, pour qu'ils puissent se former à l'IA? Voilà, moi qui ne suis pas du tout une spécialiste de l'IA, et si j'ai envie de me former de manière un peu plus technique et poussée à l'IA, est-ce qu'aujourd'hui il existe des ressources fiables que vous conseilleriez?
Oui, il y a toute une gamme d'outils disponibles. Je ne vais pas vous citer tel ou tel site internet, mais il y a plein de sites de vulgarisateurs de la science sur internet qui sont de très très bonne qualité. Il y a des ressources pédagogiques que vous pouvez aussi trouver dans les universités. Vous parliez du centre dont j'ai la responsabilité, Skype. ben nous avons des ressources que nous mettons à disposition du grand public. Donc il y a toute une gamme, hein, qu'on peut consulter. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui sortent sur la question. Donc je crois que c'est, pour quelqu'un qui le souhaite, hein, c'est tout à fait possible, hein, d'avoir un avis sur l'intelligence artificielle et d'être tenu au courant des dernières technologies. Oui.
Bah écoutez, nous mettrons ces ressources sur la page de notre émission.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup Gérard Liu pour toutes ces explications. Est-ce que vous aviez d'ailleurs une actualité à mettre en avant, que ce soit sur l'IA ou sur d'autres projets sur lesquels vous travaillez en ce moment ?
Alors je pense spontanément à la très belle conférence qui a été organisée par l'Académie des sciences au mois de mars au sujet de l'intelligence artificielle dans les sciences. Une très belle conférence qui a eu lieu sous la coupole où on a parlé d'intelligence artificielle pour la physique, d'intelligence artificielle pour la biologie, pour les mathématiques, et qui a été suivie par une très belle table ronde. Alors tout ça est disponible sur le site de l'Académie des sciences, et j'invite vraiment vos auditeurs à aller écouter cette conférence parce que c'était réellement passionnant.
Et ben on mettra également cette ressource à côté des autres que vous avez citées. Un grand merci, Gérard Liu.
Merci beaucoup, Marie-Catelin.
Les podcasts de l'Institut de France.